Chapitre 7. Des mains secourables. Yona pensait arriver à temps pour la réunion prévue à 13h avec la Riksmordskommissionen. D'ici là, il devait seulement déjeuner avec Disa dans le jardin de Rosendal sur l'île de Djurgården. Comme il était arrivé en avance, il patienta un moment au soleil en observant la brume qui flottait au-dessus des vignes. Enfin, il aperçut Disa, son sac en tissu sur l'épaule. Son visage fin aux traits intelligents était parsemé de taches de rousseur printanière, et ses cheveux, qui d'habitude étaient toujours réunis en deux tresses négligées, étaient pour une fois relâchés et recouvraient ses épaules. Elle avait apporté un soin particulier à sa toilette. Elle portait une robe à fleurs et des sandales compensées. Ils s'enlacèrent délicatement.
« Salut !» dit Yona. « Comme tu es belle !»
Ils allèrent se servir au buffet et s'installèrent à une table à l'extérieur. Yona remarqua que ses ongles étaient vernis. Elle était chef archéologue et avait souvent les ongles coupés courts et recouverts de terre. Le regard de Yona vagabondait entre ses mains et les arbres fruitiers du jardin. Disa avait entamé son assiette et parlait la bouche pleine.
« Le duc de Kurzem a offert un léopard à la reine Christine. Elle le gardait ici, à Djurgården. »«
Je ne le savais pas, » dit Yona d'une voix calme.
« J'ai lu dans les livres de comptes du château que la reine Tekamaren a versé 40 thalers en pièces d'argent pour couvrir les frais funéraires d'une fille qui s'était fait déchiqueter par le léopard. »
Elle s'inclina en arrière et prit son verre dans les mains, puis ajouta d'un ton ironique
« Ne monopolise pas la conversation, Yonalina. »«
Pardon, » dit Yona. « Je... »
Il se tut et sentit soudain une certaine lassitude l'envahir.
« Quoi ?»«
S'il te plaît, continue l'histoire sur le léopard. »«
Tu as l'air triste. »«
Je pense à maman. Hier, ça fait un an qu'elle nous a quittés. Je suis allé déposer un iris blanc sur sa tombe. »«
Ridva me manque énormément. »
Elle reposa ses couverts et demeura un moment silencieuse.
La dernière fois que je l'ai vue, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a pris la main. Puis, elle m'a dit que je devais te séduire et faire en sorte de tomber en cloque.
Je n'en doute pas, rit Yona.
La lumière du soleil se reflétait dans les verres et scintillait dans les yeux sombres de Disa.
J'ai répondu que je ne pensais pas que ça soit possible. Elle m'a conseillé de te quitter et ne plus jamais regarder en arrière, de ne plus jamais revenir. »
Il hocha la tête, mais ne savait pas quoi dire.
« Alors tu finirais tout seul, » poursuit Disa. « Un grand finnois solitaire. »
Il caressa ses doigts.
« Je ne le veux pas. »«
Quoi ?»«
Devenir un grand finnois solitaire, »
dit-il d'une voix douce.
« Je veux être avec toi. » »«
Et moi j'ai envie de te mordre, assez fort même. » Tu peux me l'expliquer, ça? Mes dents me démangent dès que je te vois,
répondit Disa en souriant. Yona tendit la main pour la toucher. Il savait qu'il était déjà en retard pour la réunion avec Carlos Eliasson et la Riksmordskommissionen. Pourtant, il restait là, face à Disa, et discutait avec elle tout en songeant qu'il aurait dû se rendre au musée nordique pour contempler la couronne de mariée et Samy. En attendant l'arrivée de Yonalina, Carlos Eliasson avait parlé à la Riksmordskommissionen du cas de la jeune femme retrouvée morte sur un bateau dans l'archipel de Stockholm. Benny Rubin avait écrit dans le procès-verbal que cette enquête n'était pas urgente et qu'il fallait attendre le résultat des investigations menées par la police maritime. Yona était arrivée avec un peu de retard, et à peine la réunion avait-elle commencé que John Bengtsson, de la brigade anticriminalité, avait appelé. Ils se connaissaient depuis de nombreuses années et jouaient ensemble au bandit depuis plus de 10 ans. John Bengtsson était un homme sympathique, mais lorsque son cancer de la prostate avait été diagnostiqué, les liens avec la plupart de ses amis s'étaient distendus. Bengtsson était désormais rétabli, mais comme ceux qui ont vu la mort de près, il avait quelque chose de fragile, d'hésitant. Yona était dans le couloir devant la salle de réunion. Il écoutait John Bengtsson.
Sa voix lente trahissait cette fatigue extrême qui se manifeste souvent après un stress intense. Il décrivait comment il avait découvert le corps du directeur général de l'inspection pour les produits stratégiques pendu dans son appartement.
« Suicide ?» demanda Yona.
« Non. »«
Meurtre ?»«
Tu veux pas venir plus tôt. Je n'arrive pas à y voir clair. Le corps flotte au-dessus du sol, Yona. »
Avec Nathan Pollock et Tommy Koufoued, Yona venait de constater qu'il s'agissait d'un suicide lorsqu'on sonna à la porte de l'appartement de Palm Krona. Une grande femme se tenait sur le palier dans l'obscurité, tenant des cartons de nourriture dans ses mains imposantes.
« Vous l'avez descendu ?»
demanda-t-elle.
« Descendu ?» répéta Yona.
« Le directeur Palm Krona, » dit-elle sobrement.
« Qu'est-ce que vous voulez dire par descendre ?»
« Je vous demande pardon, je suis une simple femme de ménage, je pensais. »
Embarrassée, elle se dirigea vers l'escalier. Elle s'arrêta net quand Yona répondit à sa première question.
« Il est toujours pendu. »«
Oui, »
dit-elle avant de se retourner vers lui, le visage impassible.
« Vous l'avez vu dans la journée ?»«
Non. »«
Pourquoi m'avez-vous demandé si nous l'avions descendu ? Il s'est passé quelque chose ? Vous avez vu quelque chose ?»
Un nœud coulant dans le crochet du lustre dans le petit salon.
Vous avez vu le nœud?
Évidemment.
Mais vous n'avez pas eu peur qu'il ne s'en serve?
Mourir, ce n'est pas un cauchemar, répondit-elle en refoulant un sourire.
Pardon?
La femme se contenta de secouer la tête.
Comment imaginez-vous qu'il est mort? Demanda alors Yona.
Le nœud coulant a dû se resserrer autour de son cou,
répondit-elle d'une voix éteinte.
« Et comment le nœud s'est-il retrouvé autour de son cou ?»«
Je ne sais pas. Peut-être a-t-il eu besoin d'un coup de main »«
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?»
Ses yeux se dérobèrent. Yona crut qu'elle allait s'évanouir. Mais elle prit appui sur le mur, revint à elle et dit d'une voix faible,
« Les mains secourables ne manquent pas. »